Alors c'est Sarah qui a proposé en fait deux textes de la Bible. Je lui ai demandé, est-ce qu'il n'y a pas des textes qui vous touchent particulièrement? Et en fait, elle a choisi ces deux textes qui vont guider notre méditation pour ce dimanche. Il y a d'abord dans le livre de l'Ecclésiaste, un passage bien connu en fait. Ce livre de l'Ecclésiaste est très curieux, il est souvent considéré comme désabusé, mais c'est un livre d'une profondeur exceptionnelle, en particulier ce chapitre 3, avec une méditation sur le temps et une méditation finalement sur un « à quoi bon ?» « À quoi bon avancer, faire des efforts, faire des gestes ?» Voilà ce qu'il nous dit. « Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de tous ses efforts? J'ai vu à quelle torture Dieu donne au Fils de l'homme. Il a fait toutes choses belles en son temps, il a même mis dans leur conscience la pensée de l'éternité. Et pourtant l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bon pour eux qu'à se réjouir et à créer du bon pendant leur vie. Et donc, si un homme mange et boit et voit du bon dans tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher et que Dieu a fait qu'il soit impressionné devant lui. Ce qui a déjà été fait, ce qui sera a déjà été et Dieu demande que ça se poursuive. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a aussi de la méchanceté. Alors j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour tout plaisir et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre ? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera venir pour voir ce qui sera après lui? Alors le deuxième texte, c'est le psaume que nous préférons, le psaume 23, donc dans la Bible, psaume de David, qui lui aussi parle de ce qui fait sens à la vie dans ce temps que Dieu nous donne. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête tellement que ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. et je reviendrai, j'habiterai dans la demeure de l'Éternel pour la durée de mes jours. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors je vous propose de chanter le cantique 254 dans notre petit recueil « Louanges et prières », les strophes 1, 4 et 5. Ô Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne pour nous maintenant une source de vie et que cette vie mette dans nos cœurs des idées, puis dans nos bouches des paroles qui nous donnent de la force et de la lumière. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun autour de nous. Ouvre-nous à une espérance féconde. Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Oui, que ta joie soit notre force. Ce texte incroyable de l'Ecclésiaste est une véritable entreprise de démolition des intégrismes, des moralismes et autres philosophies simplistes. Avec son « il y a un temps pour tout » et ses paires choquantes de deux actions contraires, l'Ecclésiaste montre que la même attitude peut être bonne à un moment et puis mauvaise un peu plus tard. Alors cela choque le moralisme qui va taxer ça de relativisme. Cela scandalise l'intégriste qui va parler de blasphème et nous menacer des peines éternelles. Mais l'ecclésiaste ne part pas, comme eux, d'une théorie du bien et du mal moral, théorie tirée droit sur du papier glacé, avec une règle et une plume bien fine. L'ecclésiaste est un homme qui part de son expérience de la vie humaine et des dons de Dieu, et cette perspective empirique change tout, en fait. Nous savons bien que dans la vie, nous avons parfois à choisir entre le mal et le pire, et que cela demande, en fait, d'être fait en conscience, ce choix, pour que le mal commis ne soit pas une trop grande source d'infection et que nous puissions ainsi travailler sur cette difficulté, chercher le pardon, chercher à réparer. Ce tragique de l'existence humaine est assumé par ce texte de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose dans les cieux. Et les 14 paires d'actions qu'il propose, c'est des actions qui sont tirées de son expérience et de sa foi. Et il va même peut-être un peu plus loin que ce que nous serions prêts à faire, puisque même des choses comme la mort, la destruction, la violence et la haine peuvent avoir un temps opportun, selon lui. Alors le fait que l'acte juste dépende des circonstances, c'est évident, par exemple, pour l'agriculteur. Il y a un temps pour labourer, un temps pour semer, un temps pour arroser, un temps pour arracher ensuite les patates. Celui qui laboureurait chaque jour son champ pourrait toujours se plaindre que rien ne pousse, mais c'est normal. Celui qui arroserait trop ne pourrait rien attendre non plus, en fait. Ni celui qui planterait n'importe quoi dans n'importe quel terrain, à n'importe quelle saison. Alors vous allez me dire qu'on pourrait faire un manuel d'agriculture avec des règles à appliquer, avec une myriade de petits critères bien précis. Peut-être. Mais la vie humaine est encore bien plus complexe que la culture des patates. Alors d'accord avec le moraliste pour dire, par exemple, que le divorce ou que l'avortement ne sont jamais des bonnes choses. Mais dans la vie réelle, c'est vrai qu'il existe des situations où c'est néanmoins la meilleure des choses et il est alors temps de faire cela malgré tout. Ce texte de l'Ecclésiaste est ainsi vraiment libérant des morales simplistes qui ont souvent pour effet de culpabiliser les personnes précisément à un temps où elles sont déjà dans une situation tragique, où il serait juste, au contraire, de les aider à avancer, de les soutenir, de les encourager, de leur dire le pardon de Dieu et de voir ensemble comment faire. C'est encore pire quand ce moralisme est sacralisé par un... C'était écrit au verset V du chapitre C du livre L de la Bible et ses paroles de Dieu. Alors oui, là, ça devient difficile, évidemment, parce que c'est sacralisé, c'est comme si c'était la volonté de Dieu qui devait s'appliquer dans le temps de cette personne, dans cette situation. Eh bien, ça dépend en fait du temps, ça dépend du moment. Et donc, hélas, nous dit l'Ecclésiaste, j'ai vu sous le soleil qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. Et souvent, c'est ce que produit en fait le moralisme, l'intégrisme, le fondamentalisme. Alors bien entendu, il n'est pas question de développer un relativisme absolu en disant que l'on peut faire n'importe quoi et puis que rien n'a d'importance. Non, ce passage ne conduit pas à cela. L'Ecclésiaste torpille simplement le moralisme, celui des religieux et celui des athées aussi d'ailleurs, parce qu'il aime la justice et qu'il rejette la méchanceté. Mais alors comment s'en sortir pour décider ? Si telle chose est un bon choix, c'est instant, finalement, dans telle situation. L'apôtre Paul parle de la même chose, parle lui aussi de l'expérience, comme l'Ecclésiaste, quand il dit « tout est permis ». Et pour nous aider à choisir, l'apôtre Paul propose « tout n'est pas utile, tout ne construit pas ». Le sens de la vie, le sens de notre vie serait ainsi de faire preuve de créativité, de bâtir l'humain, de bâtir la vie, de bâtir des qualités d'être, des relations, des belles et bonnes choses utiles, constructives et un monde plus juste, d'accord. C'est incroyable finalement une religion qui peut dire tout est permis a priori, et qui nous laissait libres d'examiner, de décider, de choisir, comme nous le pouvons. Et qui nous le permet parce que Dieu nous aime, Dieu nous pardonne, Dieu nous encourage, Dieu garde chacun dans cette route improbable que nous essayons de tracer comme nous pouvons avec les moyens du bord. Alors cette façon de réfléchir est souvent d'une grande aide pour nous aider à choisir. Est-ce que c'est constructif ce que je m'apprête à faire ? Mais c'est peut-être parfois encore un peu dangereux car cela peut ressembler à une morale utilitariste que l'on retrouve parfois dans l'Église ou au nom supposé d'un intérêt supérieur général dans n'importe quelle noble cause où on se permet en toute bonne conscience des choses qui sont parfois plus méchantes que justes, pour reprendre le terme de l'Ecclésiaste. Non, la fin ne justifie pas toujours les moyens. Donc, la méthode proposée par l'apôtre Paul, à mon avis, est intéressante, mais là aussi, il faut faire attention, bien sûr. Et c'est pourquoi l'Ecclésiaste nous appelle à réfléchir, mais à le faire de façon modeste et à le faire sous les cieux. Et c'est pourquoi, dans la liste des 28 actions proposées, il n'y a en fait ni la prière, ni la réflexion, ni le temps de suspension qu'est le jour du repos, le jour du Shabbat. Car ces activités sont d'un autre ordre que les autres, celles dont nous remplissons notre existence. Ces activités ne sont pas des activités en plus à caser dans un emploi du temps déjà surchargé, mais comme la respiration qui devient d'autant plus urgente que nous sommes plus pressés et plus actifs. Et si l'Ecclésiaste propose un catalogue de 28 activités, c'est des échantillons en fait, c'est pas la totalité du possible. Ces 28 activités, ça évoque la rencontre du 7 de la bénédiction de Dieu et le 4 de ce monde où nous sommes. C'est donc sous les cieux, sous la bénédiction de Dieu, que nous avons à discerner en quel temps nous sommes et quelle action nous allons choisir. Et nous en sommes capables de faire ce choix, car nous recevons de Dieu une certaine intuition de l'avenir ouvert devant nous et une idée de ce que créer veut dire en regardant les œuvres de Dieu. Mais en même temps, nous dit l'Ecclésiaste, oui, nous avons cette conscience, mais en même temps, nous avons une idée si vague et de l'éternité, et de l'origine, et de la finalité, que c'en est une torture, nous dit-il. À la fois, nous ne sommes pas tellement différents de l'animal, pas tellement différents du lion, qui instinctivement trouve tout à fait juste de se tailler la part du lion. Nous ne sommes pas tellement différents de l'animal, car comme lui, nous pouvons avoir aucune idée de ce que devient le souffle de vie qui nous anime, alors que nous sommes, comme l'animal, faits de la poussière du sol. Mais en même temps, ce que Dieu nous a donné nous ouvre à autre chose qu'à la poussière du sol, qu'à être tiré vers le bas. Il nous a donné une conscience de l'éternité, et ça, c'est incroyable. Il nous a impressionnés par son œuvre, même si nous ne pouvons en saisir ni le principe ni la finalité. Nous saisissons que Dieu poursuit cette œuvre. Et pourtant, nous dit l'Ecclésiaste, nous avons l'impression que l'histoire tourne en rond. Et donc dans cet entre-deux, dans ce début de conscience, dans cette humilité aussi de nos limites, quel sens pouvons-nous donner à notre vie ? Nous avons comme une intuition que ce sens existe, mais que nous ne pouvons pas le saisir, ni dans son origine, ni dans sa finalité. Alors comment, si nous ne pouvons saisir le sens de la vie, comment déterminer alors le temps où nous sommes, quelle est l'action juste, quel commencement pouvons-nous poser, et puis quelle finalité pouvons-nous choisir pour notre vie? Cette conscience de l'ultime est un cadeau et une promesse. C'est déjà une piste, à mon avis. Mais l'Ecclésiaste a raison de ne pas prendre cela comme sens à notre action et à notre vie. Peut-être que finalement c'est là l'erreur du moraliste et de l'intégriste. Ils ne veulent en général pas être méchants, Personne n'est méchant par plaisir. Mais il cherche à se projeter, je crois, trop tôt, hors du temps, dans un monde où tout ne serait que pur cristal, bien carré, éternel, parfait, hors de ce monde qui est en tension avec la poussière du sol et la finalité poursuivie par Dieu. Nous, nous sommes appelés à être plus pragmatiques, je pense, à voir les choses dans l'autre sens, entre cette vie réelle et cette sorte de conscience, d'une transcendance. Dans bien des religions, l'objectif peut être parfois de se projeter hors de ce temps pour faire son paradis, pour vivre déjà dans un au-delà ou préparer son au-delà. Et je crois que là aussi, il y a une sorte de folie dans ce décalage entre ce temps que Dieu crée pour nous, pour que nous vivions aujourd'hui, et une éternité que nous ne pouvons que fantasmer de toute façon, puisque nous en avons finalement pas vraiment une compréhension possible. Nous aurions peut-être une certaine illusion à pouvoir comprendre quoi que ce soit de ce que c'est que la vie éternelle, la vie future. Et donc le sens de notre vie n'est pas de poursuivre cette éternité. Laissons cela à Dieu qui seul crée pour toujours, lui, et qui nous donne cette éternité par grâce. Alors cela ne date pas d'aujourd'hui que les intégrismes utilisent notre conscience d'un avenir éternel pour imposer des croyances, des rites, des sacrifices à leurs adeptes en leur faisant un chantage à la vie éternelle. Alors cela n'est pas réservé qu'aux intégrismes religieux. Cela, cette espérance d'une vie au-delà de notre vie a profondément modelé le sens de la vie de nos sociétés laïques. Par exemple, nos élus qui ne veulent pas quitter leur fonction sans avoir bâti leur pyramide, leur stade de foot ou leur centre commercial dans les Halles. Comme si laisser une trace après notre mort pouvait donner un sens à notre vie. L'Ecclésiaste rigole de cette illusion. Vous ne serez même pas là pour voir puisque vous ne serez plus là. Alors, à quoi bon? C'est pas là qu'on trouve le sens de la vie. Dans le même sens, on ne fait pas un enfant pour laisser une trace après soi, mais on fait un enfant si l'on en a la vocation et les moyens aujourd'hui, si c'est maintenant pour nous le temps de faire naître. Mais on n'est pas obligé de vouloir faire des enfants, c'est à discerner sous les cieux finalement, c'est-à-dire devant Dieu avec la conscience que nous ne sommes pas dans le ciel, mais sur la terre, dans un temps que Dieu fait pour nous, pour moi, aujourd'hui, et que cette journée qui s'ouvre devant moi, eh bien, je peux y mettre ce qui me semblera bon, sous les cieux. Ce retournement de perspective partant de la vie concrète, réelle, est lui aussi, à mon avis, extrêmement fort. Ce retournement qui parle aussi de ce temps et qui cherche dans ce temps ce que l'on peut faire. Ce retournement nous libère de tant de manipulations, d'illusions et de fantasmes. Mais après nous avoir ainsi libérés d'un temps fantasmé et d'un avenir inconnu, après nous avoir ainsi libérés, que reste-t-il alors pour orienter nos actions? À quoi bon agir finalement, quand nous avons accepté de ne pas saisir ni le sens de notre vie, ni de tenir en main notre éternité nous-mêmes? Eh bien, l'Ecclésiaste nous invite à goûter ce qui est bon maintenant dans notre vie, dans notre journée, et de le recevoir comme un don de Dieu. J'ai reconnu, nous dit-il, qu'il n'y a de bon pour les humains qu'à se réjouir et à créer du bon pendant leur vie. Et donc, si un homme mange et boit et voit du bon dans tout son travail, dans ce qu'il peine, eh bien, c'est là un don de Dieu. Alors à quoi bon faire un beau geste? Eh bien, c'est le bonheur d'avoir fait quelque chose de bon. Et cela aussi est un don de Dieu. D'avoir été capable de le faire et capable de le goûter. Et par ailleurs, quand on fait un bon geste, la vie nous apprend, je crois, l'expérience. Que quand on aide quelqu'un, la personne que nous avons aidée est souvent un peu gênée, parce qu'elle... Parfois, elle peut même nous en vouloir de lui avoir rendu service. Parfois, elle va offrir quelque chose, mais plus pour se libérer elle-même, parce qu'elle a comme ressenti comme une dette à notre égard. Parfois, oui, il y a un geste de vraie gratitude, mais c'est exceptionnel et ce n'était pas obligé et c'est à prendre là aussi comme une grâce, comme un don. Et puis quand nous faisons un bon geste, Dieu ne nous récompensera pas non plus en nous donnant plus de vie éternelle ou plus d'amour. De toute façon, il est déjà à son maximum. Et donc quel avantage, nous dit l'Ecclésiaste, celui qui travaille retire-t-il de tous ses efforts ? Eh bien juste le bonheur d'avoir fait quelque chose de bien. Ou parfois le bonheur que quelque chose de bon nous ait nourri, nous ait abreuvé. Et c'est le deuxième don de Dieu qu'il signale, finalement, sur lequel il attire notre attention. Le texte parle ici de quelque chose de bon, avec ce mot qui sert dans la Genèse à qualifier l'œuvre de création de Dieu. Et effectivement, l'Ecclésiaste nous dit que c'est un don de Dieu de voir que notre effort ou notre geste a pu produire quelque chose de bon. C'est incroyable, en fait. Un autre don de Dieu, c'est de manger et de boire, nous dit l'Ecclésiaste. Il ne s'agit pas nécessairement d'un plaisir gastronomique, mais ça peut être effectivement un bon repas, pourquoi pas. Ça peut être un livre, ça peut être un geste, ça peut être une émotion, ça peut être un lever de soleil, ça peut être une rencontre, ça peut être une idée, ça peut être une musique que nous avons pu saisir et qui nous a nourris, qui nous a abreuvés, qui nous a mis en meilleure forme finalement au sens du bon de la Genèse. Et c'est pourquoi cela est aussi appelé un don de Dieu. Cela, nous dit l'Ecclésiaste, c'est ce que Dieu fait. Dieu fait ce que Dieu fait est bon et ce que Dieu fait a une dimension d'éternité et donc nous pouvons nous en réjouir. Ce que Dieu fait, c'est oui, c'est là le cristal pur. Et alors ce n'est plus seulement un fantasme, mais c'est une réalité impressionnante parce qu'elle nous dépasse et que pourtant elle est là dans notre existence, dans notre vie, dans notre être, dans sa qualité, dans sa pérennité. Et nous sentons alors, avec notre bon fond finalement, quelque chose qui nous vient de Dieu et qui est au plus profond de nous, qu'il y a là une résonance avec ce quelque chose de bon qui a touché notre être de poussière. Un geste bon, quelque chose qui nous a nourris, quelque chose que nous avons pu faire. Et il nous faut apprendre à reconnaître, je crois, ce tressaillement en nous de cet authentique « c'est bon » qui est dit par Dieu. Et pour nous, c'est dans la prière sous les cieux que nous faisons ce joyeux travail, cette expérience du bon dans le présent. Et c'est cela aussi, je crois, que nous propose le psaume 23. Il nous propose d'abord une formidable introduction comme une promenade dans le vert paradis avec des ruisseaux d'eau gouléante. Et puis ensuite, il nous propose une épopée à travers les ravins d'ombre et de mort, puis une entrée dans une abondance de bénédictions. Alors après tout cela, on s'attend pour le moins à l'annonce d'une vie éternelle dans la gloire. Eh bien non, le chant du psalmiste, comme l'Ecclésiaste, semble retomber comme une crêpe en montrant qu'il parlait en réalité de la vie quotidienne, de chacune de nos journées, de notre temps qui nous semble si ordinaire. Et c'est de cela que parlait le psalmiste quand il chantait le paradis et la victoire sur la mort. La vie présente, elle est là, finalement, nous dit le psalmiste. Elle a une beauté, elle a une bonté. Il y a dans cette vie quotidienne une grâce à goûter. Car ce n'est plus seulement alors une conscience de l'éternité, mais une expérience d'un don de Dieu, et ce don dure éternellement. Nous le pressentons vaguement, mais qu'importe. Finalement, aucun sens à la vie ne nous est accessible que ce signe qui nous est donné. Un souffle de vie nous anime, et je suis vivant aujourd'hui. Ce souffle, nous l'oublions presque tant il nous semble naturel. Nous le voyons que quand il fait froid et qu'un peu de buée blanche apparaît quelques secondes devant notre visage. C'est cette buée qui est devant notre visage quand il fait froid que nos traductions rendent par ce « vanité des vanités » qui ponctue le livre de l'Ecclésiaste. Comme ici, dans ce chapitre, l'homme et la bête ont tous un même souffle, tout est vanité, tout est cette légère buée qui est devant notre visage. Nous sommes en vie et la beauté de la vie est dans la plus petite expression de ce souffle de vie qui nous anime aujourd'hui. C'est là le bonheur et la grâce, littéralement le bon et le gratuit qui nous accompagnent tous les jours de notre existence ici-bas. Après, nous verrons bien, ce sera un autre temps, lui aussi sera un don gratuit de Dieu. Il n'y a pas à chercher un autre sens à la vie aujourd'hui que celui-là, ni à vivre dans un autre temps, voir ce bon, saisir ce gratuit qu'est la vie et que cela nous accompagne chaque jour, jour après jour. Ce bon et ce gratuit dont nous sommes capables en fait, ce bon et ce gratuit qui nous abreuve et qui nous nourrit, qui nous donne des instants de vrai bonheur, le déguster tranquillement, en apprécier l'incroyable bonté, beauté, tressaillir à cette expérience comme devant une promesse inouïe que nous ne comprenons pas encore tout à fait, et puis parfois exprimer en notre temps comme un geste gratuit un peu de cette bonté, de ce souffle, de cette buée. Angelus Silesius rend bien cette façon de voir la vie dans une de ces fameuses minuscules prédications qui tiennent en un seul souffle. La rose est sans pourquoi, nous dit-il, elle fleurit parce qu'elle fleurit, elle n'a souci d'elle-même, ne se demande pas si on la regarde. Et nous sommes aussi bouleversants que cette rose. Amen.